à cette Saint-Élabo sur cette histoire.
Ah, je pense qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, oui, parce que c'est un développement pour rien, un développement, même comme si pour celui-là qui était quand même pas très bien fait, c'est vrai que je leur ai fait perdre beaucoup d'argent dans la mesure où cet anti-épileptique, ils en ont jamais tiré un centime quasiment.
Vous êtes viré de chez Saint-Élabo, donc.
Oui.
Vous ouvrez votre cabinet de consultant après avoir été à marcher un à un les labos qui veulent pas vous embaucher comme salarié, mais qui veulent bien vous prendre comme consultant. Mmh. Et là, les affaires tournent bien ?
Alors là, les affaires tournent bien, vraiment bien. Puis alors, bon, moi, comme j'ai jamais eu peur d'être impopulaire, si vous voulez, ça m'est arrivé, effectivement, de défendre des médicaments de l'industrie pharmaceutique que personne ne voulait défendre, hein, parce qu'il y a aussi un politiquement correct dans l'antipharmaceutisme. Par exemple, j'ai toujours dit, je le répète ici, que c'était une connerie monstrueuse d'avoir déremboursé les vénotoniques.
Hein. C'est quoi les vénotoniques ?
Les vénotoniques, vous savez, c'est les médicaments que vous prenez quand vous avez les jambes lourdes, quand vous avez des varices, quand vous avez... ça peut être très douloureux. Et là encore, c'est une maladie qui frappe la France d'en bas. Parce que moi, si j'ai les jambes lourdes, je suis assis toute la journée devant mon ordinateur, j'en souffre pas beaucoup. Mais qui souffre de ce type de pathologie sont les vendeuses, sont les magasiniers, c'est la France d'en bas, quoi. Et la France d'en bas, tout le monde s'en fout. Ceci pour dire que je n'ai pas fait que prendre des positions parfois défavorables à certaines firmes industrielles. Il m'est arrivé de prendre des positions qui leur étaient extrêmement favorables. Moi, j'ai toujours été un grand admirateur de cette classe qui est très décriée, trop décriée, qui est la classe des benzodiazépines, c'est-à-dire Valium, Rohypnol, etc. Je trouve que le jour où on trouvera des médicaments finalement aussi bien tolérés et aussi efficaces pour suicider avec des benzodiazépines, il faut déjà en prendre des sacrées quantités. Et donc moi, j'ai toujours été un grand admirateur des benzodiazépines et je trouve qu'on a écrit énormément de conneries sur cette classe.
Parfois, vous arrivez de défendre des médicaments, de défendre donc les benzodiazépines, des vénotoniques, donc un certain nombre de médicaments que le grand public ou les politiques décrié, et vous mettiez avec l'industrie pharmaceutique, vous dites non, ce sont des bons produits.
De toute façon, faut quand même être réaliste. On peut pas gagner sa vie dans l'industrie pharmaceutique si on passe son temps à dire que c'est nul. À ce moment-là, faut faire dans l'activisme de victime, etc. Bon, pourquoi pas? Quels ont été les grands fardeaux de santé publique avant la pharmacie moderne? C'était la douleur d'une part et les infections d'autre part. Et on se rend compte que l'industrie pharmaceutique dans les années 30, 40, 50 s'est beaucoup constituée autour de l'invention de grands anti-infectieux, et faut-il citer la pénicilline, et puis bon, quand même des grands antalgiques. Aujourd'hui quand même, la douleur n'est pas éradiquée, mais on a des moyens de lutter contre la douleur qui ont bouleverser la médecine et, je crois, la qualité de vie des gens. Donc, si vous voulez, l'industrie pharmaceutique, c'est pas seulement que des scandales, c'est aussi un passé extrêmement glorieux.
Vous dites, là, vous êtes carrément un admirateur. Moi, c'est vrai que il m'arrive de prendre des médicaments, mais j'ai jamais pensé en termes d'admiration, quoi.
Ah, si.
On va peut-être s'asseoir, parce que sinon, je vais avoir besoin d'un vénotonique.
Mais mettez-vous dans mon fauteuil.
Je racontais les histoires des premiers antituberculeux avant la Seconde Guerre mondiale. Et bon, il y a encore quelques gens qui étaient internes dans les hôpitaux à l'époque et qui ont vu les premières méningites tuberculeuses guéries par ces médicaments. Bon, une méningite tuberculeuse chez l'enfant, c'était systématiquement mortel. C'était l'arrêt de mort, c'était la balle dans la nuque, bon, jusqu'à présent. Et lorsqu'on a eu ce type de médicament, c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on pouvait guérir ces enfants-là. Et quand on entendait ces gens qui, aujourd'hui, doivent avoir 80 ans, raconter comment ça se passait, c'est la tonalité des évangiles, c'est les miracles du Christ. On n'avait jamais vu ça.
Soigner la tuberculose.
Soigner les méningites tuberculeuses, oui, c'est bon. Alors, à l'époque, les enfants, ils sortaient de l'hôpital, ils étaient sourds, hein, parce qu'il y avait des effets indésirables, mais ça n'empêchait pas de faire la fête, quoi. On avait vraiment sauvé une vie, quoi. C'était un autre temps. De même que les premiers rhumatismes, les gens qui avaient des spondylarthrites ankylosantes, qui étaient même pas en équerre, qui étaient complètement pliés en deux, et qu'on arrivait à faire lever avec les premiers corticoïdes, c'est pareil, on regardait ça comme si c'était un miracle. Donc, vraiment, si le mot révolution, qui souffre beaucoup d'abus, est tout à fait mérité dans l'histoire culturelle, c'est bien le mot révolution thérapeutique, disons, depuis la fin des années 30 jusqu'aux années 70-80. Là, vraiment, on a eu des médicaments prodigieux, vraiment prodigieux. Mais ça, c'était, disons, avant les années 80.
Ma grippe vous va très bien. m'a dit...